Chapitre 14. Le 14 août 2016, 19h. Frank conduisait lentement. Non pas par peur de se perdre, il n'y avait qu'une route s'aventurant dans la montagne vers la bergerie d'Arcanou, mais parce qu'à chaque lacet supplémentaire, le précipice qui mordait le bitume devenait plus profond. Clotilde, assise sur le fauteuil passager, tête contre vitre, ne voyait ni goudron ni rambarde, juste le vide. La portière de la voiture semblait une fenêtre sur le néant, une cabine flottant dans le ciel, reliée d'un sommet à l'autre par un câble invisible. Un câble pouvant rompre à tout instant. La bergerie d'Arcanou se situait un peu plus haut encore. On pouvait l'atteindre directement par un sentier en moins de 500 mètres, mais la route serpentait sur près de 3 kilomètres. « Tout droit, » glissa Clotilde à Franck. « Tu ne pourras pas la rater, la bergerie est la seule maison. » Franck s'engagea sur l'étroite voie bitumée face à lui, dépassant l'unique panneau de direction, Casa di Stella, 800 mètres. L'écriteau de bois était planté au milieu d'un petit parking de terre d'où partaient quelques sentiers de randonnée. Valentine avait baissé sa vitre à l'arrière. Le parfum de pain emplissait la voiture, mêlé aux odeurs changeantes du maquis. Thym, romarin, menthe sauvage. Les images s'invitaient dans le cerveau de Clotilde sans même qu'elle les convoque. Chaque nouveau virage dévoilant un nouveau paysage, si familière pourtant. Un immense pin laricio dominant de presque 2 mètres tous les autres arbres, les ruines d'un ancien moulin à châtaigne surplombant le lit d'une rivière de cailloux, un âne solitaire broutant l'herbe d'une prairie sans barrière. Rien n'avait changé depuis 30 ans, comme si les hommes avaient patiemment entretenu les lieux à l'identique, ou qu'à l'inverse, ils avaient définitivement abandonné le coin. À l'exception des Idrissi. 3 tournants plus haut, ils croisèrent un premier être humain. Une vieille femme marchait au bord de la route, côté montagne, voûtée, vêtue de noir, semblant porter le deuil de tout un village qui aurait basculé dans le gouffre en la laissant survivre seule. Franck ralentit, se serra plus encore vers le gouffre. Pas assez, sans doute. La femme leur jeta d'abord un regard sombre, comme stupéfaite qu'une voiture inconnue puisse s'aventurer ici. Quand ils l'eurent dépassée, Clotilde aperçut dans le rétroviseur la vieille pointer ses doigts vers eux, tout en marmonnant des insultes entre ses dents. À moins qu'il ne s'agisse d'incantations maléfiques. À cet instant, Clotilde eut la certitude que la sorcière ne les avait pas pris pour des touristes égarés s'aventurant sur son territoire. Elle les connaissait, elle les avait reconnus, et ses gestes et mots de malédiction s'adressaient bien à eux. À elle. La sorcière disparut de sa vision dès le virage suivant. Quelques centaines de mètres plus loin, après un léger replat, une allée de gravier sur la gauche pénétrait presque par surprise dans la vaste cour de la bergerie. De nouvelles images se décollèrent du vieil album de souvenirs de Clotilde pour venir flotter devant ses yeux. La ferme d'Arcanou, que tout le monde désignait par le simple mot de bergerie, se résumait à 3 bâtiments de pierre grise et sèche formant un U ouvert sur les pentes de la Balagne. Une longère où habitaient les Idrissi, une grange et un vaste hangar où dormaient les bêtes. Toutes les fenêtres percées au nord offraient aux hommes, chèvres et moutons, une vue panoramique sur la Rebellata et la Méditerranée. Au centre de la ferme, la vaste cour de terre n'était colorée que de quelques haies d'églantiers et de parterres d'orchidées sauvages, les fleurs préférées de mamie, donnant l'impression que rien d'autre ne pouvait pousser dans l'ombre du chêne vert tricentenaire planté au cœur de la propriété. Clotilde tourna la tête vers la grange. Le banc était toujours là. Ce tronc fendu où elle écoutait de la musique, ce soir du 23 août 1989. La Mano Negra hurlant dans ses oreilles. Le cahier ouvert sur ses genoux avant que Nicolas ne l'appelle. « Clo, tout le monde t'attend. Papa va pas. » Étrangement, parmi toutes ces bulles qui remontaient du passé, ce fut celle de son cahier oublié sur ce banc qui mit le plus de temps à exploser. Qui l'avait ramassé? Qui l'avait ouvert? Elle ne se rappelait quasiment pas les mots, les phrases, rien de ce qu'elle avait écrit à l'époque. Elle se souvenait seulement de son intention, souvent méchante, cynique, cruelle. Avant de rencontrer Natal, et du moins. Si quelqu'un avait trouvé ce cahier, il avait dû la prendre pour la pire des garces. Elle aurait adoré le relire aujourd'hui. Sa pire crainte, lors de l'été 89, était que son père ou sa mère ne le découvre, ne le lise. Elle avait au moins échappé à cette honte-là. N'importe qui avait pu violer son intimité en se plongeant dans les lignes de ce carnet intime, après l'accident, après son retour sur le continent. N'importe qui, sauf ses parents. Cassano et Lisabetta attendaient sur le pas de la porte. Même si Clotilde ne les avait pas revus depuis 27 ans, ils ne lui semblèrent pas beaucoup plus vieux que dans ses souvenirs. Elle avait toujours entretenu avec eux une correspondance régulière. Quelques cartes postales, un faire-part de naissance, quelques photos toujours accompagnées de quelques mots. Rien de plus. Ses grands-parents paternels avaient renoncé depuis longtemps à mettre le pied sur le continent, et Clotilde avait eu besoin de temps avant d'oser retourner sur les lieux de l'accident. Ce fut Lisabetta qui les embrassa, les enlaça, les serra dans ses bras. Pas Cassano, qui se contenta d'une poignée de main à Franck d'abord, d'une accolade à Clotilde et Valou ensuite. Ce fut Lisabetta qui les pria d'entrer, de faire comme chez eux, moulina un flot de paroles ininterrompues, pas Cassano, que la conversation semblait déjà fatiguée. Ce fut Lisabetta qui leur fit visiter la longère, une succession de pièces au même mur de pierre sèche, reliées entre elles par d'immenses poutres apparentes. Pas Cassano, qui se contenta de les attendre assis devant la table dressée sous la pergola de la cour. D'autres clichés jaunis planaient sous les brumes de la mémoire de Clotilde. Ces placards sous l'escalier de bois où elle avait joué à cache-cache tous les étés avec Nicolas. Cette immense cheminée qu'elle n'avait jamais vue allumée, mais où elle imaginait qu'on pouvait faire cuire un requin entier. Cette vue sur la mer, de chaque fenêtre, de chaque étage. Et maman qui lui criait de ne pas se pencher. Le grenier, haut comme une cathédrale, où il se réfugiait avec d'autres cousins ou gamins du coin pour le meubler de couvertures, de matelas et de draps punaisés aux poutres. Tantôt palais des fantômes, tantôt boudoir à câlins. Les vraies photos, celles dans les cadres sur les murs, n'étaient pas accrochées il y a 27 ans. Clotilde reconnut Cassano, Lisabetta, papa, parfois en gros plan, parfois en tout petit avec la montagne ou la mer en arrière-plan. Elle se reconnut aussi, avec Nicolas, elle en tenue de baptême et son frère en communion. Sur une autre, ils escaladaient tous les deux un pont génois au-dessus d'un torrent. Elle n'avait aucun souvenir du lieu ou de l'année où cette photographie avait été prise. Elle s'en fichait. Elle laissait simplement l'émotion la submerger. Il n'y avait pas de photo de maman. Aucune, elle chercha. Sur plusieurs clichés, par contre, le plus souvent derrière Cassano et Lisabetta, Clotilde reconnut la sorcière aux doigts crochus, celle qu'ils avaient dépassée au bord de la route en montant à la bergerie. Un peu plus bas, punaisée sur le cadre, elle repéra des photos qu'elle avait envoyées il y a des années, elle et Franck, sur le pont Rialto à Venise. Valentine sur un tricycle, tous les trois, bonnet sur la tête, posant en hiver devant le mont Saint-Michel. Clotilde se laissait hypnotiser par les images, passant de l'une à l'autre, invitant dans sa tête les générations à se croiser. Ce fut Lisabetta qui les pressa d'aller s'asseoir, qu'il était déjà tard. Papé semblait assoupi sur sa chaise quand ils ressortirent dans la cour. Lorsqu'ils furent tous assis sous la pergola, ce fut pourtant Cassano qui parla et Lisabetta s'effaça, entre cuisine et terrasse, entre pain à couper et vin corse à déboucher, entre charcuterie à apporter et eau fraîche à verser. Le repas parut interminable. Après avoir évoqué trop vite les souvenirs communs, les sujets de conversation s'étiraient comme une ressource rare qu'on veut économiser pour la faire durer. Et Clotilde ne pouvait s'empêcher de fixer le soleil qui descendait vers la mer, telle une immense pendule accrochée au bout de leur table. « Tiens-toi quelques minutes sous le chêne vert avant qu'il fasse nuit, pour que je puisse te voir. » Avant qu'il fasse nuit. Le ciel rougissait, moins que Clotilde lorsqu'elle se leva. Lisabetta venait de desservir le dessert. « Excusez-moi, excusez-moi un instant, » bafouilla-t-elle. Elle prit la main de Valou. « Viens, ne pose pas de questions, viens. Juste quelques minutes. »